Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
C'est drôle.
Vous savez que tu parles comme ça, hein ?
Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend
« Ils vont voir si je suis pas un bonhomme !»
on a l'impression que ça veut dire autre chose.
Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, place à l'humoriste Marina Rollman, 31 ans, qui nous donne sa vision du bonhomme 2020. Au programme, humour, délicatesse et bricolage. Mais avant, elle nous donne sa définition du bonhomme.
C'est difficile parce que, en fait, moi, ce qui m'embête toujours quand on attribue des trucs positifs ou négatifs à garçon et fille, c'est de se dire que, du coup, ces qualités-là, chez une femme, ça fait d'elle un homme. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais donc, a priori, pour moi, bonhomme, c'est assez positif. Et ça veut dire qu'on est bagarreur s'il faut, qu'on est solide, qu'on se complique pas la vie de mille petits détails, petites scories comme ça. Voilà. Mais je connais, voilà, c'est pour dire, je connais plein de meufs qui sont des vrais bonhommes, quoi.
Oui, ça convient aux deux. Toi, justement, t'es un bonhomme ?
Je suis peut-être trop anxieuse et dans la remise en question pour être un bonhomme. J'ai l'impression que j'attribue un truc un peu fonceur à un bonhomme que j'ai peut-être pas. Mais en revanche, sur le côté je suis solide et je vais aller griffer le visage des gens qui embêtent les gens que j'aime, ouais, ça, je suis un bonhomme, je pense.
C'est qui les bonhommes autour de toi ?
Ma meilleure pote, c'est un bonhomme. Notamment, par exemple, sur le fait qu'elle a un truc très... Il n'y a pas de subtilité dans son rapport à la défense des gens qu'elle aime, tu vois. C'est de 0 à 100. Elle est tout de suite genre, quoi, genre, tu vois, elle saute à la gorge des gens assez facilement quand on est... Elle a un truc de loyauté, voilà, très fort. Ma meilleure pote, c'est un bonhomme. Ma grand-mère, pff, là là, mes deux grand-mères, c'est des gros bonhommes.
Dans quelle définition ?
Bah, tant dans la résistance physique, tu vois, de genre, ouais, on va nager dans la mer du Nord en hiver et tout. Elles, c'est vraiment elles ont un truc un peu paysan comme ça. Et aussi dans le côté... Peut-être discipline aussi un peu d'un autre âge, mais où on a eu un peu moins le privilège de faire un travail sur soi et donc parfois on manque un peu de subtilité sur certaines questions, mais dans l'autre sens, on endure, on est comme un bateau, tu vois, il y a vraiment, peu importe les avaries, elles survivent, quoi. Donc elles ont un côté assez bonhomme, mes grand-mères, ouais.
Et donc toutes ces personnes-là, elles ont des qualités en commun et c'est la solidité pour toi, plutôt.
Ouais, je crois, ouais, un truc ancré, solide, qui ne s'embête pas, tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de zone de gris moralement, tu vois, il y a une espèce de... Il y a un côté manichéen assez attendrissant.
Et dans tes parents, si on peut en parler, les deux sont des bonhommes dans ta définition, ou bonnes femmes, mais les femmes peuvent être des bonhommes, donc on peut utiliser ce mot.
Non, je crois, ni l'un ni l'autre. Je crois que je n'ai pas du tout des parents bonhommes. J'ai des parents beaucoup plus sylphides, très compliqués. Il y a des allers-retours dans leur personnalité. Enfin, c'est des gens plutôt... Ils ont une délicatesse. C'est pas que c'est pas des gens solides moralement, mais ils ont un truc au contraire. Il y a des enluminures quoi chez mes parents. C'est des gens. Ouais, c'est pas noir ou blanc. C'est assez peu radical ça. Donc non, mes parents sont pas trop des bonhommes.
Et toi, t'as pris de quel modèle autour de toi le plus ou le moins d'ailleurs ?
Je ressemble énormément à mes parents, à mon grand âme. Tu sais, c'est le truc où tout à coup un jour tu t'entends répondre au téléphone et t'es là, oh mon Dieu, c'était ma mère. Et donc je pense que j'ai pris pas mal des deux. Je pense que j'ai un côté très vivant et très... je rebondis toujours, c'est difficile de me tuer. J'ai un côté un peu cloporte qui est très ma mère, quoi. Il y a un truc fort comme ça, tu vois, qu'on ne peut pas nous écraser. Et j'ai un côté très créatif de mon père, mais pas très bonhomme.
Et dans le couple parental que tu as eu au-dessus de toi, justement, quand tu dis qu'il y a des qualités qu'on définit comme étant féminines et d'autres masculines, eux, ça se répartit un peu comment ?
Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai un peu plusieurs papas, mais de manière générale, mes papas sont des gens, déjà physiquement, extrêmement gracieux, délicats, très fins, très adroits, etc. Donc, c'est étonnant, mais c'est plutôt des danseurs. Il y a un truc, c'est pas qu'il n'y a pas de force, mais c'est vraiment très délicat et fin. Donc, ils ont des physiques. C'est des beaux mecs, hein, mais ils ont des physiques qui sont pas dans une virilité, tu vois, alpha, binaire, Depardieu, quoi. Même s'il y a beaucoup de poésie chez Depardieu, mais... Donc, physiquement, mes pères sont assez délicats et intellectuellement aussi, ils ont quelque chose de... Une douceur et tout, voilà. Et ma mère est très féminine aussi, ma mère est pas très virile. En fait, je crois que j'ai vécu dans un univers assez féminin, en fait. Les hommes et les femmes, assez féminins.
Et toi, t'étais quel genre de petite fille ?
Moi, j'étais extrêmement calme et douce et réflexive. Et j'étais dans mon monde et je dessinais. En fait, j'ai passé ma vie avec des adultes et donc j'avais un truc très... je crois que j'étais vachement louée pour... pas dans le sens location qui loue tout. J'étais... Il y avait un truc très laudatif sur moi, sur ma capacité à travailler avec des adultes, tu vois, à pas être un gamin chiant. Et donc, j'ai plutôt développé des qualités qui font d'un petit... quelque chose d'agréable avec les adultes, qui est pouvoir converser très bien, écouter, être calme, dessiner, etc. Donc je pense que vraiment, j'étais un petit ange qu'on pouvait crapahuter un peu à beaucoup d'endroits pendant longtemps. Et ensuite, je suis bien partie en couille à partir de 14 ans et j'ai rattrapé toutes ces années de petite fille sage en foutant un peu la merde. Donc j'étais très calme, j'étais très contemplative. Mais j'ai encore aujourd'hui un monde intérieur très riche.
Et justement, adolescente ou même plus petite, t'avais des modèles... que tu admirais, pas forcément dans ta famille, mais des célébrités, des personnes comme ça, tu avais envie d'être eux, quoi, plus tard. Ou elles.
C'est une question que je me pose souvent. J'ai l'impression que j'ai été un peu fan, mais pas tant que ça, et que j'avais pas vraiment un phénomène de grosse... Peut-être je me perds, mais j'ai pas l'impression que j'avais un gros truc d'identification. Tu vois, genre les gens qui ont un poster de Bowie chez eux et qui se disent, genre, ça, c'est ça, l'élégance, le truc, machin. Ou une façon d'habiter le monde. En revanche, j'avais énormément de méga crush sur des gens, tu sais, un tout petit peu plus grands que toi, qui deviennent des idoles. Tu sais, quand t'as 12 ans, quelqu'un qui a 3 ans de plus que toi, c'est genre... Enfin, tu vois, il a l'autorité d'un président de la République. Et ça, j'en avais hyper souvent. J'avais donc une demi-grande-sœur, mais on n'a pas vécu sur le même continent. Et donc, bon, garçon ou fille, dès que les gens avaient 3-4 ans de plus que moi et s'intéressaient à moi, je faisais tout comme eux. S'il faut écouter cette musique et il faut se coiffer comme ça et tout, parce qu'elle, elle a fait. Et donc, voilà, j'ai eu des modèles un peu... J'ai vachement aimé me trouver par phase des grands frères, grandes sœurs un peu imaginaires, mais qui étaient des gens que je connaissais dans la vraie vie, tu vois.
Mais parce que pressé de grandir, toujours d'avoir envie d'être avec les adultes, ou...
Je pense qu'il y a un truc très flatteur en termes d'ego, la cooptation par les plus âgés. Et puis, oui, donc si je les intéressais, j'étais contente. Et puis... ouais, c'est aussi, il t'ouvre à des trucs cool. Tu sais, normalement, c'est quand même souvent un lieu de passage. Ça peut être les cousins, les frères, les sœurs et tout, mais qui t'amène à un truc genre, ça c'est la musique qu'il faut écouter, ça c'est les films cool et tout. Et moi, comme je suis très curieuse de ça, j'aimais bien ce conduit culturel que les grands amenaient. Parce que c'est pas drôle si c'est tes parents qui te montrent des trucs, tu vois. Il faut être juste dans l'entre-deux pour qu'il y ait un peu de. Qu'il y ait une petite rupture culturelle.
Et c'était quoi, du coup, les trucs qu'il fallait que t'écoutes, que tu fasses, auxquels tu t'intéresses ?
Mais j'ai honte parce qu'aujourd'hui, c'est tellement mainstream, tu vois. C'est comme s'il m'avait ouvert à un truc genre, oh là là ! Mais en fait, j'ai eu la fille d'amie de mes parents, quand j'avais genre 12 ans, j'ai trouvé dans sa voiture qu'elle écoutait M. Et ça a été une révolution pour moi. Mais je sais que ça sonne ridicule parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus establishment et daron que M. Mais,
ouais, mais à l'époque,
ouais, il y avait un truc genre waouh, il est fou, il fait des improvisations pendant 8 minutes et c'est super. Et donc, par exemple, M, ça a été une petite rencontre culturelle. J'ai honte parce que ce n'est pas des trucs cool aujourd'hui.
Quand même, ça va.
Le premier album de Gainsbourg, du jazz dans le ravin, c'est un pote de mes parents qui n'avait pas de gamin, qui était un peu plus jeune que mes parents. Qui a eu une espèce de rôle un peu comme ça, grand frère, oncle, je sais pas quoi, pour moi. Il y a eu de ça. Il y a eu juste aller voir, aller dans des cinémas indépendants et aller voir des films d'auteurs un peu bizarres. Non, mais en gros, de m'amener soit à des objets culturels concrets, genre tel ou tel disque, soit de me dire, genre, va dans tel lieu. Donc moi, j'ai grandi à Genève et il y a une grosse scène alternative. Culturellement, la Suisse, tout le monde a une image hyper, genre, il n'y a que des banques et tout, mais en vrai, en fait, il y a beaucoup de lieux de culture intéressants. Va dans ce cinéma indépendant, va voir des films d'auteurs un peu bizarres, tu comprends pas, va voir tu vois, à 13-14 ans, on va voir, je sais pas, du cinéma coréen. Enfin, c'est pas non plus révolutionnaire, mais tu vois ce que
non,
je veux dire.
Non, bah oui, ce qui n'est pas forcément dans la norme.
De bien aimer, cultiver un peu le truc du mini weirdo. Et voilà, donc c'était ça. M et aller voir des films autres que français ou américains.
Et l'humour dans cette phase de ta vie, c'était présent, pas encore?
Ouais, moi, en fait, je pense un des premiers médiums où j'ai été drôle, c'est j'ai eu un téléphone portable à 12 ans, mais comme on avait à l'époque, c'est-à-dire c'est vraiment une brique, tu sais, SMS et tout. Et j'adorais écrire des très longs SMS, très rigolos. Et quand j'étais fière de mon truc, probablement j'avais pas grand chose à foutre de ma vie, mais je les envoyais à plein de gens juste pour voir quel retour eux ils avaient sur eux et quel genre de conversation ça, tu vois, c'était genre, en fait je faisais une mini chronique, tu vois, je faisais genre,
c'est une humeur,
voilà, c'était un message sur j'ai vu ça et je voyais un peu les retours. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire, on peut dire entre guillemets là, et j'étais déjà entourée de gens très drôles et moi j'étais assez rigolote. En revanche, j'allais pas voir des spectacles, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas cet accès-là. Et j'ai grandi avec un peu de l'humour à la maison des francophones. Mais c'était pas un truc, c'était pas une partie hyper active, tu vois, de ma vie. Après, j'aime beaucoup aller voir des comédies ou des trucs comme ça. Attends, 12 ans, c'est 10. Ouh, mon Dieu, Austin Powers. Sommet de la drôlerie pour moi, je pense, un peu avant 12, genre 8-10 ans. Austin Powers, sans scier, c'est sûr que Mike Myers a eu une grande influence sur mon humour.
Et la première fois que tu as vu que c'était un métier qui était possible de faire?
C'est vers 20 ans quand j'ai vu Jerry Seinfeld le faire, en fait. Pas en live, mais voir les vidéos. Parce que jusque-là, comme j'avais été plutôt confrontée à des humoristes francophones qui ont une espèce de charisme dingue, les textes avaient beau être très bien écrits, comme en plus l'interprétation... te donner un truc de... Tu voyais pas les coutures. C'était très difficile de te projeter. Tu vois, moi, si à 18 ans, je voyais Florence Foresti, je me disais genre, c'est génial, c'est incroyable. Mais je ne vois pas comment je peux aller de moi à elle. Parce que je comprends même pas la démarche. J'ai juste l'impression que c'est la meuf la plus drôle du monde qui est montée sur scène, qui a pris un micro. Tu vois ce que je veux dire. Et comme le stand-up, particulièrement un truc comme Jerry Seinfeld, tu vois un peu plus les coutures. C'est voulu, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est pas que c'est plus faible. Mais il y a ce côté, tu déroules un raisonnement, etc. Là, tout à coup, j'ai compris, genre, ah ok, en fait, t'écris un truc marrant avec ces étapes-là, et après, tu vas le jouer. Et donc, je pense que c'est Jerry Seinfeld, tout à coup, je me suis dit, je vois comment ça peut devenir un métier.
Je m'appelle Austin Powers. C'est écrit Danger Powers, monsieur.
Non, 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 non. Danger, c'est le surnom qu'on m'a donné.
Si vous voulez, Austin Danger Powers. Voyons d'abord un costume de velours bleu.
Ah, super!
Ensuite un jabot de dentelle blanc.
Et voilà.
Ensuite un symbole mâle monté en pendentif. Ensuite une paire de boots italiennes noires.
Ah, John, les filles!
Ensuite un disque vinyle. L'album Burt Bacharach présente ses grands succès.
Ah oui, génial!
Ensuite un développeur de pénis suédois à pompe.
Non, c'est pas à moi.
Revirement un peu de sujet, est-ce que tu te souviens de ton idéal masculin quand t'étais enfant, puis ado, et maintenant, est-ce que t'as un retour un peu là-dessus?
Alors, un phénomène qui était assez partagé, la petite enfance, les tweens, la prépuberté, etc., et même au début de la puberté, j'ai l'impression que c'était assez... c'était peut-être le fait d'une époque, mais en tout cas, c'était... assez prégnant dans mon groupe de copines, c'était qu'en fait, on allait vers des modèles masculins qui étaient eux-mêmes... très ambigu. Tu vois, c'est justement, tu disais pas à 12 ans, j'ai envie de Ken Depardieu, tu vois. Donc, ça va des Ryan Philippe aux mecs des boys band, les 3T, les machins, les trucs. Tu vois, c'était des physiques très... Enfin, Ryan Philippe, le stylisme de Ryan Philippe dans Cruel Intentions, le film avec, tu sais, les liaisons dangereuses avec Sarah Michelle Gellar.
C'est du cuir moulant.
C'est du cuir, mais c'est aussi, tu sais, beaucoup des espèces de petits pulls manches longues transparents, carrément, d'espèces de
en résine.
Voilà, ouais. Exactement. Et il est femme, il est, bah, comme un Timothée Chalamet aujourd'hui, tu vois, sur un truc ambigu. Donc je pense que j'avais un idéal masculin.
Pas de poils, pas de barbe, on voyait pas ça.
Pas de poils, j'avais un poster de Tupac que j'avais pas le droit de mettre dans ma chambre. Parce que. Il était torse nu, il avait beaucoup de tatouages et il avait des guns. Et mon père a dit genre non. Ce que je trouvais très fermé d'esprit pour mon papa qui était plutôt sympathique. Mais donc sinon, ça, non, c'était ce qu'on appelle un minet, je crois. C'était ça, un peu l'idéal masculin. Et ouais. Est-ce que ça ressemble au mec que j'aime bien aujourd'hui? Non, pas trop. Non, non, le poil a fait son arrivée après et tout. Mais ça fait peur quand t'as 12 ans. Tu peux pas vraiment tout de suite aller de zéro à Samuel Le Bihan.
Et aujourd'hui, ta vision des hommes en général, tu te rends compte qu'elle a changé au cours de ta vie?
Mais je me rends compte qu'on est tous dans cette petite performance assez rigolote de devoir habiter et mettre en scène la féminité ou la masculinité. Et on le fait tous à des degrés différents. Ça m'amuse en fait. Tout ça commence à m'amuser. Maintenant, j'arrive plus à voir ça comme un truc. Mais c'est aussi un travail de déconstruction. C'est pas que moi. C'est que l'époque, le zeitgeist me renvoie ça. C'est qu'aujourd'hui, on est tous en train de questionner ça. Et plus je le vois comme un truc amusant. C'est-à-dire un gars hyper viril, mais qui en fait assume complètement des goûts culturels éclectiques, y compris des trucs un peu émo, sensibles et tout. Ou alors au contraire, une fille très délicate qui a aucun problème à avoir des facettes d'elle qui sont pas tout à fait en adéquation. En fait, j'aime bien. J'ai l'impression qu'on est en train de vachement rendre subtil ces portraits-là. Mais je vois le côté un peu factice et performatif. Donc je pense que je me suis défaite de certains trucs que t'as quand t'es petit, hyper normatif, de genre... ça c'est pas un truc de fille et ça c'est pas un truc de garçon. Je trouve que vraiment on est en train d'ouvrir l'éventail de... Mais tu le vois dans plein de trucs, tu vois par exemple la production du rap américain et aussi du coup du rap maintenant européen depuis 10 ans, elle est devenue tellement sensible, on s'est tellement défait de la question de l'alpha, on s'est tellement défait d'une certaine virilité, elle existe toujours mais tu vois un mec comme Frank Ocean, il y a quand même vraiment un avant un après et tu sens les émules que ça fait aujourd'hui autour de nous. C'est très agréable, je trouve ça très cool. Et j'ai plutôt l'impression d'être entourée de gens qui se créent des virilités, des féminités un peu compliquées, tu vois, qui font cohabiter des trucs bizarres.
Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui te fascine chez les hommes que tu connais? Où tu dis, ils ont ça en commun, où il y a quelque chose chez ces hommes-là, et ça me fascine, et je sais pas d'où ça vient, quoi.
Ben, je crois qu'en fait, beaucoup des hommes qui m'entourent essayent justement de se dépatouiller avec la question de la virilité, c'est-à-dire comment est-ce que tu traces ta route entre supposément le fait qu'on t'a chargé de l'obligation de savoir des choses, de savoir où tu vas, de tout ce poids-là, donc qu'on commence à déconstruire, qui en fait va faire partie de cette vague féministe qu'on vit, qui à un moment donné de les décharger aussi de certains... Là, on les a beaucoup accablés, on les a beaucoup chargés de choses, c'est très juste, mais il va falloir aussi les décharger de gens... Vraiment, il faudrait qu'un mec qui gagne moins qu'une meuf à la première date ne le ressente à aucun moment. Or, il y a beaucoup de gars qui te le disent que c'est vraiment une pression, qui se sont même pas mis tout seuls, hein, qui existent. Et donc, je crois que beaucoup des hommes qui m'entourent, ils ont ce truc très touchant de devoir admettre qu'ils sont faillibles, et le paysage culturel l'aide en ce moment, alors que j'ai l'impression que c'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème pour les femmes qui m'entourent. De dire genre, bon, ça va, mais une sacrée journée, et tu vas te mettre à chialer, on a le droit de le faire. Et je crois que je vois beaucoup autour de moi, y compris mon père et tout, des gens qui ont dû se défaire de, voilà, d'une certaine idée de la virilité, qui du coup doivent réapprendre à genre, désolé, ça je sais pas, pardon, j'ai fait ça mal, je m'excuse, tu vois. Et je trouve qu'ils ont, en tout cas, ce truc touchant, ils se dépatouillent là-dedans, et c'est cette vulnérabilité-là, c'est très... délicat et cute. Et après, je serais toujours fascinée par les mecs qui savent, genre, bricoler, conduire par tous les temps, etc. Mais c'est pas tellement le cas. Mon père, un peu, mais sinon, genre, les mecs de ma génération, quand même, tu sens qu'il y a eu un 180 qui a été fait. Mon mec, il a pas son permis et tout. Enfin, tu vois, donc, il y a des moments, ça me casse les couilles. Tu sais, il y a des moments où je suis, genre, avec plein de potes à la maison. Et tu te dis, on est, genre, 7, il y a, je sais pas, 4 gars. Et en fait... il va y avoir un problème d'ampoule de mon cul, de je sais pas, et il y en a pas un qui sait faire. Et j'ai des moments où je suis là genre, mais j'ai pas eu le temps d'apprendre ça, mais parce que moi je sais mettre des fossiles, vous me cassez les couilles, tu vois, genre, il y a une petite autonomie qu'on a perdue avec ceux sur quoi on pouvait compter chez eux. Et je sais que c'est très réel ce que je dis, mais ouais, ils ont perdu des trucs un peu.
Et toi, tu te trouves féminine dans ce qui est ta définition à toi?
Naturellement, j'ai l'impression que je suis très... Je suis pas très bonne à ça, mais ça m'amuse de temps en temps de la performer, la féminité.
Pour te surprendre ou pour...
C'est très agréable. Moi, j'aime bien faire des trucs avec les mains. Et genre, par exemple, le maquillage, j'adore, c'est de la peinture. Je trouve ça hyper agréable. Donc ça m'amuse de performer, de mettre des freins qui sont pas confortables et des chaussures qui le sont pas non plus et des trucs et des machins et de surjouer, je sais pas, tu vois, la maîtresse de maison, d'arriver avec des plats et c'est beau et comment t'as fait, oh non mais c'est rien, non, non, non. Et j'adore, tu vois, vraiment ouais, performer la domesticité, le truc de temps en temps. Et 80% du temps, j'ai l'impression d'être un petit troll des forêts et de pas du tout faire attention à ça parce que je suis occupée à faire autre chose. J'ai vraiment l'impression d'être un humain un peu neutre. Et de temps en temps, je fais exprès de...
D'aller prendre l'habit, quoi.
Voilà.
Est-ce qu'à l'inverse, justement, t'as des particularités en toi qui sont communément qualifiées comme masculines?
Bah comme en fait le masculin dans le monde c'est aussi le neutre, c'est-à-dire le masculin c'est le masculin mais c'est aussi la vitesse par défaut, j'ai l'impression d'être un homme à plein de moments de ma vie, juste parce que je suis sortie de chez moi sans faire gaffe et je suis allée accomplir une tâche, mais je suis, tu vois, genre physiquement dégueulasse et, ou pas très agréable, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression parfois d'être un mec juste parce qu'il me semble que c'est le neutre. Après, un vrai truc particulièrement viril, qu'est-ce que j'ai je sais pas si c'est féminin ou masculin, mais je pardonne pas beaucoup et j'ai une certaine intolérance, parfois une impatience avec les gens. Je peux être cassante, voilà, j'ai un truc cassant. Et j'ai l'impression que parfois on associe, parce que féminité, maternité, donc quelque chose de nourricier, qui pardonne, qui prend toujours en son sein, etc. Ça, je l'ai pas. J'ai vraiment un truc parfois, genre, je peux être cruelle et cassante et un peu. On parlait de Succession en arrivant à cette merveilleuse série. Je peux avoir un peu un truc de patriarche, de grosse boîte toxique où je. Vous êtes virée! Enfin, tu vois, j'ai un truc comme ça parfois. Ouais.
T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Tu me casses les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Attends, t'es merde ici. Oublie rien, allez, dégage. Connard, casse-toi. Allez, je veux plus jamais te voir. Dégage.
Et quand tu dois penser à des personnages masculins pour tes sketchs, quand tu dois parler d'un genre dont tu fais pas partie. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui pour toi fait le comique dans les hommes que tu connais? Comment tu t'y prends?
Bah, mon mec, c'est quand même un petit animal qui vit avec moi 24 heures sur 24, donc c'est une source d'observation sans fin de le voir comme ça dans son milieu naturel. lui, il est vraiment génial parce qu'il y a vraiment, on est très différents sur beaucoup de plans et il a beaucoup de trucs de garçon incompréhensibles sur le rapport à la santé, par exemple, de pas comprendre des choses très simples qui est genre, bah oui, bien sûr, mais si tu manges comme ça pendant 6 jours, évidemment, tu as mal au ventre le 7e, tu vois. Truc où t'as l'impression qu'on leur a pas appris à gérer leur corps, t'sais. Donc mon mec beaucoup, et après en fait la communication autour d'une catégorie d'hommes que je ne connais pas, mais de la survirilité, tu vois, le marketing qui va vers des boissons énergétiques et genre les Dan Bilzerian de ce monde, ça c'est une source infinie de fascination.
T'en connais pas des mecs qui sont très réceptifs à tout ça?
C'est des injonctions tellement genre, qui est tellement dur en fait, c'est vraiment genre faites-vous mal, pourquoi, parce que c'est de la vie, c'est de la merde. Donc voilà, c'est un peu les deux types d'hommes que je peux observer qui m'amusent.
Tu penses que c'est générationnel parce que t'as 31 ans,
ouais.
Donc t'es quand même dans une génération. Je pense que tu dois être dans les personnes les plus jeunes que j'ai interviewées. Enfin, tu dois être dans les plus jeunes que j'ai interviewées là-dedans. Donc t'as forcément une vision qui va avec ta génération. Ouais. Tu vois des différences entre les personnes plus vieilles que tu connais et ton groupe d'amis rapport à la masculinité, et même d'ailleurs chez les femmes, la façon, ce qu'elles attendent chez un homme est différent.
Je pense qu'ils sont vraiment défaits de plein de choses cool. Je te dis, ils savent plus conduire, ils savent plus planter un clou et tout, mais ça s'accompagne de vraies, je pense, qualités et de moins de pression et d'un rapport à la parole qui est beaucoup plus libéré. J'ai l'impression qu'il y a un vrai truc qui a évolué. Et après, parfois, j'ai peur que par un esprit de pas de vengeance, mais de on pousse les curseurs un peu trop loin pour ensuite revenir à la norme. Cette vague de féminisme est fait que les femmes se libèrent de certains trucs super et ensuite, schadenfreude, un peu par elles sont quand même contentes que les autres mordent un peu la poussière. J'ai l'impression que parfois, elles s'amusent de continuer à demander des vieux trucs aux gars. Exemple concret, des meufs hyper féministes, hyper woke, hyper dans le futur et tout, qui disent genre « Bah ouais, bah j'espère bien que tu gagnes la thune, mon gars, parce que tu vois... » Parce que en gros, qui reprennent les injonctions qui nous ont fait du mal et qui disent genre « Ouais, mais en plus, si t'es un loser... » Tu vois, Beyoncé, par exemple, elle a tous, dans ce vocabulaire-là, tout un truc de libération de la femme et en même temps de très vieux, vieilles demandes qui est genre... Bon, ça, je parle à l'époque encore Destiny's Child, c'est autre chose, mais genre, si tu payes pas tes factures, t'es pas un gars, tu vois, t'es pas sérieux, je vais pas te considérer. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait au bout de la démarche qui est genre, bah, du coup, si on se libère de ça, ne leur demandons plus les trucs qui nous ont fait chier aussi. Voilà.
Et ça t'y arrive, toi, par exemple, dans mon couple, ouais, à ce que ça soit.
De temps en temps, j'ai une petite voix de petite princesse dans le fond de mon truc qui est là, genre, j'aimerais que tu me portes. Mais je crois qu'on y arrive. Ça veut pas dire qu'on enlève les différences, ça veut dire que juste on reste pas dans des rôles figés un peu débiles qui est genre... En fait, si concrètement, et c'est le cas dans mon couple, par exemple, moi, j'aime bien bricoler, faut pas que je me vexe. J'avais un peu ça au début, genre, mais j'aimerais tellement que tu installes tes lumières. Puis au bout d'un moment, en fait, moi, j'aime bien m'acheter une perceuse, c'est cool, quoi. Oui, c'est très libérateur, c'est super, c'est vachement bien. Mais je suis pas parfaite là-dedans non plus. Hein.
Si tu devais changer les rôles avec ton mec et que tu pouvais vivre une journée dans ses pompes, qu'est-ce que tu ferais déjà à sa place?
Qu'est-ce que je ferais? J'irais remuer mon petit cul dans la rue et personne me ferait chier. Non, qu'est-ce que je ferais si j'étais un cum?
Ou d'ailleurs un mec en général.
Ouais, en fait, j'irais tester plein de situations où il y a des petits moments de paternalisme un peu tranquillou, genre le magasin de bricolage, genre le caviste, etc. Voir si on parle de la même manière ou pas. Et puis, qu'est-ce que je ferais, mon Dieu, si j'étais un homme pendant une journée, un truc un peu marrant?
Si tu fais rien de plus que ce que tu fais aujourd'hui, c'est bon signe.
Ouais, non, mais je pense à la drague. Je serais curieuse d'aller voir, effectivement, si les filles ne draguent pas ou pas, ou si tu signifies de manière respectueuse ton intérêt, est-ce que les femmes viennent ou pas, parce que j'entends plein de mecs qui se plaignent, genre, oui, mais elles viennent pas non plus, alors que moi, je suis très frontale dans la drague, mais... Je serais curieuse de voir. Mais en même temps, c'est mon mari, j'ai pas envie qu'il aille se faire draguer. Qu'est-ce que je ferais?
Un homme tout court, comme ça, au moins.
Je ferais des tractions dans le bois de Vincennes en criant. Je sais pas, franchement, non. Et bah écoute, je crois que ma vie ne changerait pas des masses. Je sais pas, j'irais découvrir le plaisir prostatique. Ah oui, les orgasmes, putain, voir un peu aussi la physiologie. Si j'étais un homme cis, voir comment ça marche, un pénis, etc. Ça peut être rigolo. Je crois que c'est très décevant en plus. C'est terrible. Pour nous, ce serait cool. Parce que moi, j'ai un vagin. Si un jour j'avais un pénis pour une journée, ce serait rigolo. Et je reviendrais après à la jouissance du vagin. Et je serais là, genre, c'est vraiment génial. Mais je crois que pour eux, ce serait horrible en fait. Parce que tu testerais une journée, manifestement, des orgasmes qui sont genre 10 fois plus forts. Après, tu reviendrais sur le genre, mais c'est nul. C'est comme manger un sneaker, c'est rien de spécial. Sinon, je ferais un autre. Non, je sais pas, je demanderais un prêt, je me ferais augmenter. Je sais pas, des trucs. Je sais pas, je ferais la guerre. Non, je sais pas.
Et pour finir, du coup, un conseil aux hommes qui nous écoutent sur leur comportement, leur compréhension des femmes ou même simplement des choses qu'ils ne devraient plus jamais porter, si on peut se permettre de leur donner ce genre de conseil.
Un truc qu'ils ne devraient plus jamais porter. Mais pantacourt, je crois qu'on est assez au clair avec tout ça, cette histoire de corsaire, pantacourt, etc. La fedora, pareil, pas possible.
C'est quoi ?
Du chapeau, tu sais, un peu. Ouais. Un petit chapeau d'homme, pas possible. Vraiment, ça, je pense que c'est une injonction qu'on leur a foutue et je sais pas comment ils s'en dépêtrent, mais je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui pensent que dans la séduction il faut être intéressant et donc parfois nous apprendre des choses et donc parfois au lieu de nous écouter et d'avoir un dialogue, de te noyer sous les informations et en fait ça finit par un semi-cours plutôt qu'une conversation. Et ça, je pense que vraiment, le côté... comment est-ce qu'on dit? C'est pas la pédanterie, mais c'est quelque chose de... un peu verbeux, professoral, comme ça. Ça, je crois que pour moi, c'est un immense... Mais même pas tu l'amour, c'est un problème dans les amitiés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se fourvoient là-dedans, en fait. Qui pensent que c'est leur rôle, parce qu'on leur dit « C'est toi, faut être fort, faut savoir, faut leur en mettre plein la vue et tout. » Et qui se rendent pas compte que ce serait beaucoup plus charmant si tout à coup tu poses une question. Putain, mais posez des questions, les gars. Mais posez des questions. Mais tout le monde va se faire sucer en direct dans la rue si tout le monde commence à poser des questions. Vraiment, posez des questions, écoutez, rebondissez, ne sachez pas. Intéressant, ah ouais, tu crois, etc. Tellement génial, très reposant, très rafraîchissant. Versus un gars où tu dis genre « Ouais, moi, une fois, je suis allée en Grèce. Ah, oh, j'adore Santorin. » Alors d'ailleurs, tu vois, qui tout de suite qui étale sa science et tout, c'est vraiment pas sexy.
Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.